À Rencontre spirituelle, il sera question d'Albert Frank Duquesne, très peu connu malheureusement, et pourtant un des personnages les plus étonnants de ce siècle, une sorte de génie qui est né en 1896, il aurait donc 100 ans, et c'était un intellectuel autodidacte. Vous verrez ce que j'entends par là, il a terminé ses études à 14 ans, il a étudié par lui-même, mais c'est incroyable ce qu'il savait. C'est un grand converti du judaïsme. Il a même collaboré à la grande revue des Carmes, les études carmélitaines. Il a publié des ouvrages étonnants comme « Cosmos et gloire » avec une préface de Paul Claudel. Et on trouve un de ses textes dans « Joie de Jésus-Christ ». Ou plutôt « Ma joie terrestre, donc es-tu », publié par les études carmélitaines. Le titre de son article, c'est « Joie de Jésus-Christ ». Et il a fait des réflexions aussi sur Satan en marge de la tradition judéo-chrétienne dans le fameux volume des études carmélitaines consacré à Satan. Il a publié « Le Dieu vivant de la Bible », etc. Donc, son nom, Albert Frank. F-R-A-N-K. Je laisse tomber le Duquesne, qui est au fond le nom de sa femme, qu'il a ajouté à la fin de ses jours à son propre nom. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Albert Frank est né à Bruxelles, donc en 1896, il y a 100 ans. C'est un petit garçon aux boucles noires, bien roulé, les petites boucles. Ça me rappelle mon enfance, je portais des boucles comme ça. On portait ça il y a très longtemps. Hein? Portait un costume de velours foncé à col de dentelle. Bien où on portait ça, nous aussi, à la fin des années 20, début des années 30. Il portait des petits souliers vernis, trop serrés. On voit ça sur une photo au début de ce siècle. C'est ça, le petit Albert. Et son père était un imprimeur estimé. Sa mère, qui était la seconde épouse, très jeune, d'un homme de près de 60 ans. Assez spécial, hein? Et ses premières années sont égayées par les plaisanteries, les rires de ses 16 frères et sœurs aînés, enfants du premier mariage de son père. Oui, oui, 16 frères et sœurs. Il apprend à lire et à écrire chez les sœurs de Sainte-Marie, rue Dupont, hein? Puis il fréquente l'Institut Robert, rue de Ruisbrock. C'est dire qu'il a fait des études chez des catholiques, bien que juifs d'origine. Mais cette apparence de bourgeoisie plutôt respectable, ça cachait une réalité autrement bien complexe, hein, parce que le petit Albert, il est belge de naissance, d'accord, mais en fait, c'est un juif et ça crée des problèmes. Malheureusement, pour eux, c'est triste. Et son père, Frédéric Frank, descend d'une famille de colporteurs hollandais, revendeurs nomades à l'âme mystique. Quand on remonte plus haut dans sa famille, on trouve parmi ses ancêtres le fameux Jacob Frank, originaire de Podolie, qui au XVIIIe siècle a répandu à travers la Pologne, la Bohême, l'Autriche, des idées religieuses, qui était opposé à l'enseignement traditionnel des rabbins, des juifs, et qui était influencé par le christianisme. La mère d'Albert, elle, est une juive de Hambourg, israélite. Parmi ses ascendants, à elle, il y a le célèbre poète allemand Heinrich Heine, dont un jour il faudrait bien que je vous parle. Personnage extrêmement intéressant. Albert Frank doit beaucoup à son père. Celui-ci, qui est un esprit intelligent et curieux, s'est instruit par lui-même. Il s'est formé religieusement dans une école rabbinique hollandaise. C'est un méditatif qui s'était converti au catholicisme. Son père était catholique, voyez, à l'époque de son service militaire. La Bible passionnait. Il a commenté souvent pour son plus jeune fils, Albert, tellement précoce qu'à 10 ans déjà, il pouvait en discuter avec beaucoup d'intelligence avec son père, donc. Bien, il lui parle de tel ou tel passage du texte sacré de la Bible, telle ou telle interprétation de la doctrine de l'Église catholique à laquelle son père a adhéré. L'enfant apprend ainsi tout jeune à aimer la parole de Dieu et à vivre d'elle. Cette première initiation mais c'est réellement le germe d'où jaillit et d'où va s'épanouir aussi sa pensée jusqu'à son dernier jour. Ça va être un torrent. En revanche, son développement intellectuel a été dans l'ensemble bien peu influencé par l'enseignement qu'il a reçu à l'école. Et à l'Institut Robert, il a été un gamin plutôt triste, solitaire, qui sortait parfois de son isolement silencieux. Et il jouait des tours malencontreusement. Après un de ses tours pendables, joué à un condisciple un peu prétentieux, il est envoyé quelques mois au petit séminaire de Malines, près de Bruxelles. Puis on le met au collège Saint-Augustin à Enghien. Du premier, il garde un souvenir de dépaysement douloureux, tragique même. Du second, là, à Enghien, il y a la figure d'un prêtre, professeur de religion et d'histoire, qui semble seul avoir compris que le jeune Albert, ce jeune juif, a des dons de génie. Presque tous les soirs, pendant plus d'un an, ils ont des discussions passionnantes. Et c'est dans l'humble chambre de ce prêtre, érudit, modeste, qu'Albert apprend les bases. Il acquiert là des connaissances en histoire religieuse qui vont le marquer, puis en histoire politique des peuples, tout jeune, hein? Des connaissances qui vont faire toujours l'étonnement de ceux qui vont aborder Albert Franck plus tard. Leur envergure, d'ailleurs, leurs compétences, leur documentation sûre à ses connaissances, ça va rendre le petit Albert absolument irrésistible quand il va apporter des conclusions. La formation intellectuelle, donc, du jeune Albert Franck a été, en définitive, surtout, son œuvre personnelle. C'est un autodidacte. Il s'est meublé l'esprit par ses lectures. Des lectures qui, dès l'enfance, sont si abondantes et si variées, si sérieuses aussi, d'un niveau si élevé qu'on crie à l'impossible. Imaginez, à 13 ans, par exemple, il a lu et même retenu les ouvrages de Döllinger, de Franz Delitzsch, de Schopenhauer. Il parle en connaissance de cause de philosophie et d'athéisme. L'ouvrage de philosophie et athéisme d'Ernest Hello. Il parle des œuvres de Mgr Landrieu, qui était très lu à l'époque, et Mgr Bonnard. Il avait même découvert Léon Blois, qui exerçait sur lui une influence profonde. Il engloutit tout jeune des étagères de livres à la Bibliothèque royale de Bruxelles, parmi lesquels il va s'amuser à citer lui-même un jour, comme il dit, l'admirable latin mystique de Rémy de Gourmont, et même l'œuvre complète d'Émile Zola. C'est absolument phénoménal, et toute sa vie, il va rester un lecteur insatiable. Mais Albert Franck, hélas, va perdre son père très tôt. C'est le soutien paternel qui vient lui manquer brusquement à l'âge de 14 ans. Et ça n'a jamais été remplacé, c'est curieux, il avait 16 frères et sœurs. Il était né d'une autre femme. Il a dû quitter le collège l'année suivante sans achever son cours. Sa famille l'a abandonné à lui-même. Terrible, hein? Alors commence pour lui une invraisemblable période d'aventure, puis des pérégrinations intellectuelles invraisemblables. Il est tour à tour mousse sur un quatre-mâts norvégien, malade et même mourant dans un hôpital de Rio de Janeiro. Il est ouvrier dans un puits de pétrole du Texas aux États-Unis, journaliste d'occasion en France, puis devient mineur dans les charbonnages belges. Il trie le minerai à Sclessin. Bon, moi, j'en passe, j'arrête. Pendant la guerre 14-18, il s'engage comme volontaire au service de sa patrie, la Belgique. Il est blessé et envoyé en Angleterre pour se rétablir, et de cette époque date sa connaissance si parfaite de la langue anglaise. L'armistice le trouve à Paris sans ressources. Il va vivre des mois durant la vie de clochard. Il devient clochard. Incroyable. Vraiment un vrai clochard, là, qui couche sous les arches des ponts de Paris. Il va dans les refuges de nuit. Il n'a nulle part où aller. Cette vie étrange en fait un être rejeté de tous, un paria. Tantôt écrasé, tantôt révolté. Un être douloureux et susceptible. Il écrit « Mes contacts avec la vie m'inspiraient une répulsion proche de la terreur et de la haine. » Il devient un garçon difficile à fréquenter. Et pourtant, il est, puis demeure une âme, un cœur, littéralement possédé par Dieu. Son approche de la Trinité est une intimité immédiate. Il a découvert vraiment la Trinité. La Trinité s'est révélée à lui. C'est une certitude dans la foi, une familiarité infiniment respectueuse dans l'amour aussi. Quand il écrit, c'est bouleversant, « J'avais la face, depuis mon éveil à la pensée, tournée vers le Père, vers Dieu, sans chercher encore à décortiquer la notion de Trinité, et précisément parce qu'elle n'était pas pour moi une notion, mais une réalité vivante, dont je sentais confusément que je portais en moi la présence mystérieuse. J'étais attiré, fasciné, gravitationnellement aspiré vers ce Dieu dont la triunité irradiait une ténèbre. » Cette face de l'autre, de Dieu, ce visage trois fois saint que le Christ nous présente dans son Église, bientôt pourtant Albert Franck ne croira plus la reconnaître dans l'Église catholique. Certes, il ne perdra jamais la foi, vous allez voir, il va faire des détours. Il ne sera jamais un de ces convertis qui viennent de l'indifférence ou de l'hostilité à Dieu, mais il va cheminer si loin de la véritable Église catholique qu'il en devient un fils égaré. 20 ans plus tard, lorsqu'il retrouvera le vrai bercail, comme il se sentira semblable à l'enfant prodigue qui revient vers la maison paternelle. Et à Paris, Albert Franck subit d'abord la séduction de l'occultisme et des recettes magiques. L'aspect faussement mystique de la théosophie aussi l'attire. Il s'initie à fond à ses doctrines. Il donne même des conférences. Et ensuite, son besoin d'absolu l'oriente vers des problèmes plus proprement, disons, métaphysiques. Et comme il fait, jour après jour, l'expérience inhumaine de vivre dans une société où il ne trouve pas sa place, l'univers lui apparaît comme inexistant. Alors il adhère progressivement à des conceptions hindoues, védantines, n'est-ce pas, de l'hindouisme. Alors Sankara, dont je vous parlerai un jour, C-C-D-A-N-K-A-R-A, un grand penseur hindou, qui nie le monde au profit de Dieu, lui semble répondre à ces questions angoissées, les questions qu'il se pose. Il tente même une synthèse entre sa foi restée chrétienne pour l'essentiel, puis la pensée hindouiste. Un moment, bien, il croit avoir trouvé dans le néoplatonisme de Plotin, mais il comprend par son expérience intime du mal que l'homme a besoin d'être sauvé plus mystérieusement, et que ses doctrines superbes escamotent quelque chose qui est le drame de la rédemption par le crucifié, par Jésus, que nous allons célébrer bientôt. Alors il continue à réfléchir, à lire, à dévorer, toujours davantage. Son esprit ne connaît pas de repos. Et alors il va rencontrer les textes du protestant Albert Schweitzer, l'exégèse, les textes de la Bible, et aussi l'ouvrage posthume d'un prêtre catholique interdit, le père George Tyrrell. Et là, petit à petit, il va quitter son vagabondage et il va retrouver un peu l'Église et le christianisme. Écoutons pendant quelques instants du Ernst Bloch, ce grand compositeur juif.
Thank you.
C'est beau ce chant juif d'Ernst Bloch. C'est sur un disque musique à thème hébreu, paru chez Chandos. C'est interprété par Imuzichi de Montréal, sous la direction de Yuli Turovski. Alors donc, notre ami Albert Franck découvre à travers Albert Schweitzer, dont je vous parlerai probablement le 4 septembre, l'anniversaire de sa mort, il découvre les pères de l'Église, qui se mettent à l'influencer de plus en plus. Il s'y plonge avec passion, puis retrouve le goût, la saveur, l'expérience vécue, dit-il, et l'amour et l'impérieux besoin du Dieu vivant de la Bible. C'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il écrit. Il a un débordement, lui, pour la Bible et pour Dieu. Il comprend qu'il lui faut revenir à la pratique des sacrements. Il faut qu'il réintègre l'Église. Mais laquelle? Quelle Église? Et à cette époque, Franck approche de la trentaine. Sa vie sociale a pris une tournure plus acceptable. Mais, oh, il connaîtra pas tellement au cours de son existence la sécurité avec un bon job, là, puis une sécurité définitive, non. Il va être professeur de langue, il va être journaliste, publiciste. Il se crée peu à peu des relations, puis un cadre social. Il se fait même des amis, puis en 1924, il épouse Elitia Duquesne. C'est de là qu'il ajoute à son nom le nom de sa femme, Duquesne. Elle va le suivre fidèlement dans son évolution spirituelle. Quand il va publier sa première œuvre d'écrivain catholique en 1947, il va devenir donc Albert Franck Duquesne, c'est 23 ans après son mariage qu'il ajoute le nom. Voilà donc qu'une nouvelle recherche là requérir toutes ses forces parce qu'il veut découvrir le vrai visage de l'Église de Jésus-Christ. Puis l'Église catholique ne lui apparaît pas comme la dépositaire de la vérité totale. Ça lui répugne. Au contraire, elle lui semble même avoir renié ses origines. Et beaucoup de catholiques aujourd'hui ont ce sentiment-là et quittent malheureusement l'Église avec cette idée. Vous savez que moi, je suis catholique, très attaché à cette Église. Alors, je ne me gêne pas pour dire ce que les gens pensent, ça ne me dérange pas. L'Église semble donc avoir renié ses origines en s'écartant de l'esprit des pères de l'Église, puis de la spiritualité tout évangélique des premiers siècles chrétiens. Alors Albert Franck cherche ailleurs. Il se tourne d'abord vers les vieux catholiques. Je ne sais pas si vous connaissez ça, ce sont des groupes de catholiques dissidents depuis surtout le siècle dernier, au moment de la promulgation du dogme de l'infaillibilité pontificale. Ils sont plus catholiques que le pape, d'ailleurs, sous certains rapports. En 1932, dans une petite chapelle de la rue de Sèvres à Paris, il est ordonné prêtre. Dans cette église, par Mgr Wienhardt, évêque schismatique, donc séparé de Rome. C'est ce que ça veut dire, schismatique. On fonde, comme Mgr Lefebvre, hein, on fonde pour lui une paroisse belge à Bruxelles, et quelques années lui suffisent pour que des doutes surgissent en lui. Tandis que son évêque, d'ailleurs, éprouve lui aussi des préoccupations semblables aux siennes, et l'évêque se sent mal à l'aise dans cette église séparée de Rome. Une église catholique séparée. Ils approfondissent ensemble la théologie anglicane, la théologie orthodoxe aussi, qui les fascine, ils hésitent. Puis une démarche spontanée de l'archevêché russe orthodoxe les décide. Et là, ils y voient le doigt de Dieu. Puis ils optent pour la belle et grande église orthodoxe russe, où en 1937, ils sont tous deux réordonnés sous condition. Albert Franck croit toucher au port. Enfin, il est prêtre orthodoxe, il a 41 ans. Sa femme et lui n'oublient jamais les temps heureux et bien remplis de leur apostolat auprès des orthodoxes russes d'expression française de Bruxelles. Avec sa facilité d'assimilation, étonnante, même chez un homme d'origine juive, on sait combien les juifs apprennent vite, mais lui, il apprend encore plus vite que la majorité des juifs. Il avait acquis en un rien de temps une connaissance suffisante de la vieille langue liturgique des Russes, le slavon, pour participer au culte et très rapidement aussi avec un immense amour du culte de la liturgie de Saint Jean Chrysostome. Il s'initie à ce qu'on appelle justement la divine liturgie, c'est le nom que donnent les orthodoxes au Saint-Sacrifice, et il traduit en français les prières liturgiques. Alors Albert Franck est devenu le Père Jean. et on lui a confié une paroisse, et ses journées se passent en apparence comme celles d'un simple laïc. Il est vêtu d'un costume civil, il se rend au bureau, il y accomplit son travail de publiciste. Son aspect extérieur est toujours celui d'un homme de taille moyenne, fortement musclé, un peu replet peut-être, d'une surprenante vigueur, une grande jeunesse encore en lui, mais un détail est caractéristique de sa mission. Il porte maintenant, évidemment, puisqu'il est prêtre russe, une longue barbe, traditionnelle, hein, comme les prêtres russes. Et lorsqu'il endosse sa soutane, pour la célébration du culte, il a vraiment l'air, pour les Bruxellois du quartier de la rue du Mail, il a l'air de quelqu'un qui arrive tout droit d'Europe orientale, un vrai, vrai russe. Le dévouement qu'il manifeste à l'égard de ses fidèles est inlassable. Il se sent le père de ses fidèles russes orthodoxes. Et sa femme est la Matouchka. Elle accueille, après la divine liturgie, les fidèles. Elle les reçoit même à sa table. Et durant ses années de ministère, bien des pauvres gens ont trouvé à son foyer le couvert, même le gîte, le toit. Et le père Jean n'a pas oublié les années de misère noire du jeune Albert Franck, quand il était pauvre. Alors, vivifié par une charité intense, qui s'abreuve toujours au cœur du Christ. Ses souvenirs l'amènent souvent à ouvrir sa maison à des clochards, à des rebuts de la société, voire à des malheureux défroqués, qui ont sombré dans une incroyable détresse spirituelle et matérielle, aux amis catholiques qu'il se fera après son retour à l'église de Rome, parce qu'il va revenir à l'église catholique. Franck va raconter avec émotion dans quel esprit d'adoration et d'amour il s'est acquitté de son sacerdoce comme russe orthodoxe. L'église à laquelle il est toujours demeuré attaché, l'église orthodoxe. Il l'a connue de l'intérieur, il l'a aimée. Il est vraiment pénétré de la sainteté de sa charge. Il vit dans cet esprit que décrit si bien le grand écrivain russe Nicolas Gogol dans « La divine liturgie ». C'est Gogol qui écrit « Le prêtre auquel il incombe de célébrer la liturgie doit, dès la veille, être sobre de corps et d'esprit. Il doit être réconcilié avec tout le monde. Il doit éviter de nourrir le moindre ressentiment contre n'importe qui. Et le soir, après avoir récité les prières prescrites, le prêtre doit vivre en esprit, dans la sainteté, de ce qui l'attend le lendemain, afin que sa pensée même soit sanctifiée et embaumée à l'avance. » Alors, une nouvelle fois, cependant, la situation va devenir cruciale pour l'âme d'Albert Franck, ou le père Jean, assoiffé de vérité. Car il ne lui faut pas plus de 3 ans pour se rendre compte de l'intérieur, avec quelle profondeur de pénétration théologique aussi, puis un invincible élan spirituel, que la grande et belle Église orthodoxe ne possède peut-être pas les caractères qui la rendraient authentique, selon lui. La théologie, la liturgie, la spiritualité de l'Orient parlent certainement à son âme, plus qu'aucune autre. Et l'on doit reconnaître qu'Albert Franck ne reniera jamais cette âme spirituelle, si pénétrée de la mentalité du Christ qui est celle de la grande orthodoxie. Mais il est d'autant plus frappant qu'il ait pu et dû rompre avec elle pour retrouver enfin ce qu'il appelle la véritable Église de Jésus-Christ. C'est ce qu'il dit lui-même. La possession de tous ces trésors uniques au monde est corrompue dans l'œuf par l'abandon de l'unité, enjointe par Jésus-Christ dans le chapitre 17 de Saint Jean, comme la marque essentielle de son Église. En 1940, je n'hésite plus. Comme le joaillier de la parabole évangélique, je vends toutes mes possessions pour acquérir la perle précieuse. Je fais le sacrifice de mon sacerdoce et je rentre à Rome, réduit à l'état laïque. Il ajoute cette parole sublime, « Si l'acte essentiel du prêtre est le sacrifice, et si le sacrificateur doit s'offrir lui-même avec le Christ comme le veut saint Augustin, ma vie laïque depuis 1940 jusqu'à ma mort m'apparaît comme une messe ininterrompue sur le plan de la vie spirituelle. » Alors une héroïque grandeur marque donc le sacrifice final et définitif du sacerdoce par Albert Franck, mais un témoignage aussi probant pour l'authenticité de l'Église catholique mérite qu'on s'y arrête un instant, car il n'est pas revenu à elle à la légère. Et pendant des mois, il a changé des opinions par correspondance avec le père Congar, et aussi avec Don Lianine, le bénédictin du monastère belge de Chevetogne, monastère de l'Union. Je parlerai tout à l'heure de la suite de sa recherche dramatique, difficile, mais grandiose, d'Albert Franck Duquesne. Vous venez d'entendre Supplication d'Ernst Bloch, interprété par I Musici de Montréal sous la direction de Yuli Turovsky. C'est sur un disque chant d'os intitulé Musique à thème hébreu. Aujourd'hui, il est question d'Albert Franck ou d'Albert Franck Duquesne, un juif étonnant, extraordinaire. Et ce que Franck tient à souligner chaque fois qu'il parle de l'Église, c'est le caractère transcendant et divin de l'être profond de l'Église. Pensée par Dieu, voulue par Dieu de toute éternité, l'Église n'est pas comme une quelconque société d'hommes. L'Église, c'est la résultante d'un concours de volonté humaine. Mais plus que ça, elle est la résultante de l'organisation, de l'institution voulue par le Christ Verbe incarné. Et c'est de lui et de lui seul, au fond, qu'elle tient, dans une totale et complète dépendance, tout ce qui fait son essence, sa nature et sa vie. L'Église est, selon une parole de Bossuet que Franck affectionnait tout spécialement, le Christ répandu et communiqué. Il disait d'ailleurs Franck dans une conférence prononcée plus tard, « L'essence et l'unité de l'Église » ne doivent rien à un contrat social, à une volonté d'union, moins encore, s'il se peut, aux péripéties de l'histoire. L'essence et l'unité de l'Église préexistent. Elles sont prévues, prévoulues. Il disait aussi, Albert Franck, « L'unité qui fait l'Église et de nous les membres de celle-ci vient de Dieu, dans le Verbe fait chair. » C'est pourquoi elle est absolument farouchement une, parce qu'elle n'est pas de ce monde, parce qu'à ce monde, lieu du multiple, elle oppose sa propre fonction qui est de manifester l'unité du Dieu jaloux. Alors c'est pourquoi, Aussi, cette unité, on peut dire, est à la fois visible et invisible. On trouve ça dans ses écrits. Divine même et incarnée. Il le dit si bien d'ailleurs. Le monde, ainsi, connaît de cette manière, par la manifestation tangible de l'unité divine, que le Père, l'unité suprême, l'un par excellence, a envoyé son Fils, et qu'il aime tous ceux qui ne font qu'un avec ce Fils. Il a des écrits mystiques absolument admirables, nourris de grandes théologies. Si le Christ ne nous a pas leurré, si ses promesses sont efficaces, il faut que cette Église, une, existe visible ici-bas. Or, ajoute-t-il, l'Église de Rome, qu'il méprisait tellement, parce qu'elle a plein de défauts, elle est pleine d'horreurs, c'est sûr, mais il dit que l'Église de Rome est la seule. La seule. C'est moi, l'Église. Et les membres épars de l'orthodoxie, pour lui, disent aussi qu'ils sont l'Église, mais pour lui, le manque d'unité profonde, le gêne, l'attriste, le font même pleurer, parce qu'il adore, et il adore, il aime beaucoup l'Église orthodoxe. Pour lui, l'Église souche, l'Église corps du Christ et cœur de la chrétienté, pas de doute, c'est celle qui se présente comme la protagoniste à tout prix de l'unité totale, et pour lui, c'est Rome. Albert Franck éprouve parfois dans l'intime de l'âme, au cours des années qui suivent, la joie immense, éblouissante d'être redevenu le serviteur fidèle de la vérité. Pourtant, de manière habituelle, sa vie sera désormais le sacrifice perpétué des jours sublimes, où il a renoncé définitivement au sacerdoce. Et ce premier dimanche de Carême 1940, où pour la dernière fois il a célébré la divine liturgie qu'il aimait tant dans l'Église orthodoxe, et ce 30 juin de la même année, où il a abjuré à Malines, en présence de Mgr Van Korvenberg. Ah, c'était terrible pour lui, et en même temps une immense joie. Pour porter généreusement sa croix, il lui a fallu recourir souvent à l'aide spirituelle du chanoine Alert, le saint prêtre que Dieu a mis providentiellement sur sa route à cette époque, et à qui il a confié la direction de son âme. Et pendant les années de guerre, de l'occupation 40-45, devenu simple laïc catholique, Franck et sa femme ont eu le sort de la plupart des gens qui ne possédaient ni capital ni économie. Ils ont connu la faim et le froid. Ils ont partagé. Cette période de souffrance universelle a été marquée pour lui par une épreuve spéciale extraordinaire. Il a été jeté dans un bagne à Brenne, donc. C'est la période la plus sombre de sa vie d'homme et la plus illuminatrice de sa vie de chrétien. C'est fantastique. De ce temps d'incarcération, il va nous laisser le souvenir émouvant et le témoignage unique dans son livre « Le chemin de la croix ». C'est un livre qui va paraître l'année même de sa mort, en 1955. Ce qui est arrivé, c'est que le 21 août 1941, en pleine guerre, il a 46 ans, Franck devient en effet le numéro 538 au tristement célèbre Erziehungslager, le camp d'éducation de l'occupation allemande en Belgique. Le prétexte de son arrestation, c'est quoi? C'est une lettre trouvée chez une dame russe avec laquelle il correspondait en 1937. Et de sa plume énergique, il avait noté « Pour moi, Hitler et Staline, Gog et Magog, sont à fourrer dans le même sac parce que ce sont tous deux de fidèles larbins de l'Antéchrist. » Il n'aurait jamais dû écrire ça. Ni avec une totale soumission à la volonté de Dieu, une confiance absolue en la bonté du Père, il accepte, aussitôt le tunnel d'entrée franchi, de vivre pleinement ce qu'il va appeler son purgatoire, et il faut mieux le laisser parler lui-même. Écoutez bien ça. Après une vie de vagabondage intellectuel et d'anarchie spirituelle, je me suis trouvé à Brenne, donc, dans le camp, réduit à rien, humainement inexistant, foulé aux pieds, inférieur à la boue sur la route. Plus loin, il dit, de la première minute à la dernière, mon existence en ce bagne a été purement théologale. Littéralement, je n'avais rien que Dieu, brutalement vidangé par mes gardes chiournes, vidé de moi-même. Je n'ai eu de conscience, de réalité, que par cette symbiose, cette communion, cette vie cachée avec le Christ en Dieu, la plupart de mes compatriotes, Brendonck est une vomissure de l'enfer. Or, il m'y fut accordé une joie, une allégresse, et par-dessus tout, et comment m'exprimer, comme une ivresse de liberté véritable et souveraine, comme une certitude de triomphe spirituel, une assurance sans orgueil d'être associé à Dieu, à ses vues providentielles, à sa victoire sur la mort, et à son œuvre salvatrice en Jésus-Christ, mon seul Seigneur. Et de ce temps d'union, qu'on peut dire co-rédemptrice, intime au Christ, une journée se détache entre toutes, qui a totalement réorienté sa vie ultérieure. Il écrit le vendredi 12 septembre 1941, mon équipe dévora trop d'épluchures en pelant les pommes de terre. Il y eut des malades. En guise de sanction, le dimanche 14 septembre, c'est l'exaltation de la Sainte-Croix le 14 septembre, nous fûmes tous à 38 privés du moindre atome de nourriture, de la plus humble goutte d'eau. De 8 heures à midi, nous dûmes sans répit ramper dans la boue, sous une pluie battante, sous le glacis du fort. Les commandements à coups de sifflet alternaient à une vitesse folle avec des ordres hurlés. Aufstehen, kriechen, debout, ramper. Quiconque ne pouvait, à cause de son grand âge ou de ses infirmités, obtempérer assez vite était éduqué à coups de crosse. À midi, la pluie cessa brusquement. On nous fit défiler devant les chaudrons de soupe, au pas de loi, pour nous avertir que nous n'en aurions pas. Puis de 13 à 20 heures, il nous fallut rester debout, immobiles, dans la cour, dans le plus impeccable des gardes à vous, tête haute, les yeux fixés droit devant nous, sous la constante brûlure d'un soleil cuisant. 7 longues heures. De quoi faire un chemin de croix en 14 interminables et douloureuses stations? Eh bien non, et c'est bouleversant ce qu'il écrit, alors qu'autrefois, avant que je ne franchisse sous l'œil de la sentinelle allemande les portes du Sheol, je me battais les flancs pour étoffer ces exercices pieux, et ce fut ce jour-là, pendant 7 heures, que s'écoulèrent pour moi comme 7 minutes à même la source, avec un S majuscule, un jaillissement, un mascaré de gloire et de sérénité, une surabondance d'actions de grâce, une pure reconnaissance pour ce couronnement des dons excellents et des grâces hors pair que m'envoyait le Père des Lumières. Une offrande royale de moi-même, des miens, de mes amis, de l'Église, de la patrie, du genre humain, un sacrifice d'expiation et de réconciliation opéré comme celui de Dismas, et Dismas le bon larron, en union d'amour total avec le Fils éternel. C'est un grand mystique, comme vous voyez, ce laïc. Il faudra 5 années pour que celui qui a vécu pareille expérience mystique puisse même en transcrire quelque chose sur le papier. Parce que Franck, Albert Franck, transporté durant ses heures loin d'ici-bas, s'était contenté d'être passif. Il recevait les grâces. Un jour pourtant, lorsque l'abbé Combes, professeur à l'Institut catholique de Paris, avec qui il avait noué des liens amicaux, va lui suggérer qu'il n'a pas le droit de laisser sous le boisseau cette expérience de la voie douloureuse de la Via Dolorosa. Pas le droit. C'est d'ailleurs à peu près comme ça que Franck va composer toutes ses œuvres. Il est véritablement inspiré, et lorsqu'il lui arrive de dicter sa pensée, on reste confondu devant l'abondance des idées, des analogies, des images qui viennent aussitôt éclairer son propos. On en éprouve en même temps une admiration sans borne pour la fermeté du développement. Puis la solidité de l'argumentation, c'est pas de la petite littérature spirituelle, c'est de la grande littérature spirituelle. Et par-dessus tout, de son sens poétique qui éblouit, Albert Franck retrouve spontanément, sans aucun effort, pour chanter la splendeur de Dieu, les accents des psaumes. Il plonge en quelque sorte son auditeur avec lui directement dans l'Esprit Saint, on pourrait dire, cette personne divine dont il aimait à dire qu'elle était en la Trinité l'artiste. Et grâce à l'intervention du cardinal archevêque de Malines auprès des autorités allemandes, Albert Franck a été libéré à la Noël. Mais ces quelques mois de remise aux mains du Père en prison ont marqué sa vie. Désormais, lorsqu'il sera repris par les faiblesses de son corps, il aura le sentiment de péché contre ses heures de grâce et de grande purification. il en pleurera. Il en pleurera. Et de son retour à l'Église catholique de Rome, Albert Franck s'est mis à écrire au service de la vérité catholique retrouvée. Il a été poussé par le désir de communiquer à ses frères les fruits de ses expériences religieuses nombreuses. Il se sent riche, éclaté de connaissances et rempli d'amour. Il écrit facilement des tas de choses, mais les éditeurs n'en vont pas, n'en veulent pas. Il est découragé. Il brûle environ 4000 pages de manuscrits, mais l'honneur de le sortir enfin de l'ombre va revenir à Paul Claudel, ce géant bien fait pour comprendre un homme de sa taille. Paul Claudel apprécie beaucoup ce qu'il écrit. Il est conquis. Il lui déclare, il s'agit évidemment d'un ouvrage monumental, appuyé sur une science théologique et liturgique exceptionnelle que vous avez écrit, et surtout sur une foi, sur une dévotion et sur une intelligence que je ne puis qu'admirer. Alors le dialogue est amorcé, il aura bientôt un résultat effectif, et en 1947, Claudel fait éditer chez Vrin, à Paris, grand éditeur Vrin, VRIN, que vous connaissez, j'espère, la première œuvre catholique de l'écrivain, qui se nommera désormais, comme je vous ai dit tout à l'heure, Albert Franck Duquesne. C'est son admirable « Cosmos et gloire ». Puis, Claudel en écrit la préface, comme je vous l'avais dit. Alors, il est appuyé aussi par le père Danielou, le fameux futur cardinal Danielou, professeur à l'Institut catholique, et aussi par le père Bruno de Jésus-Marie des éditions carmélitaines, qu'il l'introduira à écrire dans les beaux livres des études carmélitaines. Et maintenant, nous allons écouter une méditation hébraïque d'Ernst Bloch. Pas si vous aimez autant que moi Ernst Bloch, mais cette méditation hébraïque interprétée par les Nimusichi de Montréal, sous la direction de Yuli Turovsky m'enchante. Ernst Bloch. Un disque intitulé « Musique à thème hébreu ». Chandos qui a pu qui distribue ce disque. Je reviens donc pour terminer avec Albert Franck. Il a surtout le grand bonheur, à la suite de sa rencontre avec Claudel, avec le futur cardinal Danielou, avec le fameux père Bruno de Jésus-Marie des éditions carmélitaines. Il faudrait que je vous en parle un jour. Eh bien, il a rencontré l'évêque coadjuteur de Paris, le merveilleux Monseigneur Beaussard, qui devient un grand ami jusqu'à sa mort, survenu en 1952. Monseigneur Beaussard est mort en février 52. Et Monseigneur Beaussard va le soutenir, le protéger. C'était un saint, Monseigneur Beaussard, à mon avis, enfin. Il a toujours su comprendre puis apaiser cette âme agitée de Albert Franck Duquesne. « Quand on connaît votre passé, lui disait-il, on comprend votre caractère. » Il disait ça avec beaucoup de bonté. Il a réussi à maintenir sans ombre son influence bienfaisante sur l'écrivain, cet écrivain génial mais tourmenté, qui cherchait passionnément à rendre gloire à Dieu, en dépit même des difficultés de son tempérament. Et son ouvrage, son premier ouvrage, « Cosmos et gloire », préfacé par Paul Claudel, est incontestablement une œuvre originale, ainsi bien la première fois, en effet, qu'un écrivain religieux présent, semble-t-il, à l'Occident, d'une plume aussi ardente et poétique à la manière d'un visionnaire, la grande théologie de la rédemption du cosmos. Les trop brèves années qui le séparent de sa mort voient paraître plusieurs œuvres quand même, et de grande importance, le Dieu vivant de la Bible en 1950, Ce qui t'attend après la mort, 1951, Création et procréation en 52. « Seul le chrétien pardonne » qu'avait fait sensation en 1953. « Le chemin de la croix » dont je vous ai parlé tout à l'heure en 1955 sur son séjour au camp. Il adresse de nombreuses contributions, comme je vous ai dit, aux études carmélitaines, à d'autres revues. Il y a une tribune qui lui est offerte aux éditions universitaires, puis aussi à l'abbaye de la Cambre. Le chanoine J. met à sa disposition chaque hiver une grande salle du presbytère à cet endroit, et le petit groupe d'auditeurs fidèles n'est pas prêt d'oublier tout ce qu'il leur a dit, le témoignage de foi authentique et substantiel. On appelait ça les conférences de la Cambre. Toutes ces richesses qu'il nous a communiquées, a dit l'abbé Charles Müller, fameux Charles Müller, dont je vous parlerai aussi sans doute, montrent que sa pensée forme un carrefour prophétique à l'époque où nous vivons. C'est un carrefour, car elle nous amène au confluent de la Bible et de la liturgie, de la pensée juive, de la pensée patristique, de la tradition orthodoxe, tout cela confronté avec une fascination exercée par les religions non chrétiennes, qui marque tant d'esprits contemporains, et avec ce courant humaniste qui se développe actuellement. C'est ce que dit l'abbé ou le chanoine Charles Müller. La santé de Franck Duquesne est entamée, il connaît des crises d'extrême fatigue. L'effort de création a créé des tas de difficultés, puis il y a les problèmes matériels aussi. Il connaît même 2 années de chômage, l'angoisse. Puis il retrouve un petit emploi dans un ministère. Mais ce travail est bien lourd pour lui. Il ne lui reste que les soirées, les week-ends pour écrire. Il a beaucoup souffert du manque de détente. En mai 1954, une 20aine de personnes, émues par la dureté de son effort, se forment en groupe, les amis de Franck Duquesne. Alors, c'est un appui moral, mais aussi un soutien matériel, mais pas pour longtemps. En 1955, Franck Duquesne, malade depuis quelques mois, se remet avec confiance, finalement, aux mains de Dieu, son Père, avant de subir une opération délicate, mais il n'y survit pas. Le Seigneur le rappelle à lui, donc, en 1955. C'était son fidèle serviteur qui laisse pour ses amis consternés une œuvre inachevée de très belles pages, celles notamment que Claudel avait découvertes en premier lieu, et qui sont encore inédites à ce moment-là. Ça fait penser aux pensées de Pascal, qui avaient été laissées comme ça en désordre, et pourtant, elles ont été lues par les générations qui ont suivi sa mort. Albert Franck Duquesne a eu donc une vie tumultueuse. C'est une nature ardente et inquiète, une intelligence géniale, je répète, géniale et tourmentée. Un caractère avec des extrêmes, grande tendresse, parfois un instinct de domination, humble, puis parfois follement orgueilleux, épris de charité, et parfois un peu égocentrique. Oh mon Dieu, comme je me reconnais dans tout ça, incapable par amour de Dieu, du plus grand renoncement, puis impuissant devant quelconque convoitise. Je l'aime bien, cet homme, avec tous ses mélanges. Il a été porté au nu par les uns, au nu par les autres. Peut-être une sorte de Léon Blois, une sorte de Marc Jacob dont je vous ai parlé. Un aspect de cette existence agitée qui l'unifie, qui lui confère une incontestable grandeur. Frank Duquesne a été toute sa vie un témoin passionné de l'absolue transcendance de Dieu. Il a effectué toutes les recherches doctrinales possibles, il a accompli toutes les démarches spirituelles imaginables. Il semble bien s'être égaré en des expériences nombreuses, variées, mais quelle admirable quête de la vérité divine. Et ce long voyage spirituel, il le poursuit au prix d'immenses bouleversements intérieurs, comme tant de gens aujourd'hui. Les épreuves qui ont engagé tout son être, des déceptions humaines crucifiantes. Toujours avec une persévérance inouïe, il n'a cherché et il n'a souffert que pour découvrir le seul vrai Dieu et pour vivre de lui. Et son long périple l'a ramené à l'Église catholique, qui l'a servi alors en fils reconnaissant et fidèle pendant les 15 dernières années de sa vie. Et c'est pourquoi il est si juste de rappeler, comme l'a fait avec un infini respect, cet autre grand converti, Peter van der Meer de Walcheren, dont je vous parlerai un jour, c'était un aventurier de l'esprit. J'aime beaucoup, je vous assure, ce personnage extraordinaire, ce juif à la grande âme et cet éminent catholique.